Donc, merci pour l'invitation et désolé de ne pas pouvoir rester jusqu'à la fin tout à l'heure. Je pensais intervenir un peu plus tôt et j'ai un engagement après. Donc, je suis d'autant plus content que une question dont j'ai pour l'instant peu entendu parler et qui me tient à cœur est posée dans l'intitulé même de notre réunion, puisqu'il s'agit d'engagement et de sciences sociales, c'est-à-dire du rapport entre le travail universitaire et l'engagement politique. Bien entendu, toutes les personnes qui ont participé étaient convaincues qu'il y a un lien entre les deux, mais je voudrais souligner que ça ne va pas de soi. Dans le monde universitaire aujourd'hui, l'engagement n'est pas nécessairement la garantie d'une carrière rapide et réussie. Je crois que c'est un élément qu'il faut prendre en compte, c'est-à-dire le fait qu'il n'est pas forcément dans l'intérêt des universitaires, étant donné ce qu'est la carrière, de s'engager, en tout cas tant qu'ils ne sont pas déjà pleinement établis. Je crois que c'est un élément. Et c'est un élément qui a des rapports avec autre chose qui a déjà été évoquée, à savoir des figures, par exemple, comme Finkielkraut ont été mentionnées. Et en fait, la question est de savoir de qui on parle quand on parle des intellectuels. Et aujourd'hui, en France, l'une des conditions de possibilité pour l'occupation de la scène médiatique par des personnages que nous hésiterions peut-être davantage à qualifier d'intellectuels, eh bien, c'est que des gens qui font ce travail universitaire répugnent à s'engager dans ce qui leur paraît risquer de les compromettre dans l'espace public. Donc je crois qu'il est important de voir notre responsabilité collective, c'est-à-dire de réfléchir à ce que produit aussi l'institution universitaire lorsqu'elle dissuade, parce que ça ne fait pas sérieux, parce que ça semble être compromis avec le siècle, lorsque donc l'institution universitaire dissuade de s'engager. Alors ça pose une question en particulier qui est médiatique. Et bien, je vais venir aux objets mêmes dont nous parlons, et entre autres à travers cette question de médiatisation, à travers un exemple qui m'importe beaucoup, qui est pas simplement qu'est-ce qui est médiatisé, mais qu'est-ce qui ne l'est pas. Parce qu'on a beaucoup parlé de ce qui était médiatisé, par exemple, autour de l'islamophobie, et à juste titre, on en a parlé, mais on peut voir aussi qu'est-ce qui n'est pas médiatisé. Je me suis beaucoup intéressé à la plainte portée par l'association La Voix des Roms contre Manuel Valls alors qu'il était ministre de l'Intérieur, et je suis très frappé du fait que si peu de gens aient choisi d'évoquer publiquement cette question, qu'ils soient journalistes ou qu'ils soient universitaires. Pour ma part, à force de répéter la chose, j'ai été accusé d'avoir une sorte de marotte personnelle, ce qui n'est pas entièrement faux, mais en même temps, je crois qu'il y a des conditions qui ne tiennent pas simplement à mes névroses personnelles. Donc je crois qu'il faut réfléchir, puisque nous parlons d'engagement, à ce qu'est aujourd'hui le travail universitaire et ce que sont les conditions de la carrière universitaire, mais aussi ce que sont les conditions de l'expression publique dans les médias. C'est un premier point que je voulais aborder. La deuxième chose, c'est que, et c'est toujours lié au travail intellectuel, mais ça a des rapports vraiment avec ce que nous faisons, c'est que il ne s'agit pas seulement de la médiatisation, mais du fait de travailler avec des militants. Très souvent, le travail avec des militants se fait en dehors du travail intellectuel. C'est-à-dire que on produit des travaux universitaires, ou on produit des travaux savants, etc. Et par ailleurs, on a des contacts avec les militants. Je crois que c'est aussi quelque chose à quoi on devrait réfléchir, c'est-à-dire, bien entendu, il y a quelque chose comme une autonomie du savoir universitaire, il y a une autonomie du monde académique, et c'est une bonne chose. Néanmoins, l'autonomie, comme on le sait, ça ne veut pas dire qu'on est coupé du reste du monde. Et à l'intérieur même du travail, je crois que les domaines minoritaires nous ont appris qu'il pouvait y avoir une circulation. C'est le cas, par exemple, dans les études féministes, où, de toute évidence, il y a parfois des rapports entre le fait qu'il y a des gens qui sont en général des femmes d'ailleurs et qui sont militantes féministes, et le fait qu'il y a un champ d'études qu'on appellera par exemple études de genre ou comme on voudra. Et c'est vrai dans beaucoup de domaines, donc je crois que nous avons intérêt à y réfléchir. Pour ma part, ça se traduit par le fait, par exemple, d'avoir participé à une entreprise collective qui s'appelle Cette France-là, où la plupart des gens n'étaient pas universitaires, voire quasiment personne. Et deuxièmement, d'avoir co-écrit un ouvrage, Roms et Riverains, où les trois autres co-auteurs n'étaient pas universitaires, puisqu'il y avait deux journalistes et un militant. Je crois que ce sont des choix dans des pratiques savantes qui, là encore, peuvent avoir des inconvénients. À mon âge, ça n'en a plus beaucoup, mais c'est plus compliqué sans doute pour de jeunes chercheurs. Donc je crois que c'est quelque chose qui mérite notre réflexion. Alors, il y a pour autant un rôle spécifique des sciences sociales, et précisément dans cette interaction avec les militants, et sur quoi je voudrais essayer de réfléchir. Ce rôle, c'est que, bien entendu, il ne s'agit pas seulement de l'écrire, il s'agit de donner des outils d'interprétation. Ça, c'est le métier ordinaire des sciences sociales, et c'est là que nous avons un rôle à jouer. Mais d'abord, je crois que ce qu'on fait quand on fait des sciences sociales, c'est qu'on a appris, en gros, c'est un peu le béaba des sciences sociales, qu'on est censé définir le problème qu'on se pose. Et je crois que ça, c'est un enjeu politique et pas seulement scientifique aujourd'hui. La question est de savoir quelle est la question. De quoi parle-t-on? Je vais prendre un exemple. Est-ce qu'on parle de l'immigration ou est-ce qu'on parle des politiques d'immigration? De toute évidence, ça change la discussion. C'est-à-dire, si la question était posée tout à l'heure, si on se dit « mais pourquoi les gens viennent-ils ? » Est-ce qu'on va réfléchir du côté des migrants ou est-ce qu'on va réfléchir du côté des politiques qui sont menées? Et est-ce qu'on va se dire « est-ce que la question, c'est qu'ils viennent ?» ou « la question, c'est qu'on les empêche de venir ?» Donc, quelles sont les questions que nous nous posons? C'est, je crois, ce qu'on apprend à faire en sciences sociales, mais qui est d'autant plus nécessaire dans un contexte politique où les questions nous sont imposées et où donc nous devons faire un travail pour poser nos propres questions. Donc de ce point de vue-là, à mon sens, il n'y a pas du tout une discontinuité entre le travail politique militant et le travail scientifique. Construire les problèmes, poser les questions telles qu'on veut les poser, ça peut être un point de convergence entre un travail militant et un travail politique. Pour ma part, je vais parler là plus précisément du travail que nous avons essayé de faire autour des Roms, mais aussi peut-être avec certains prolongements, tels que la situation à Calais. Une première chose, c'est donc d'essayer d'imposer ses propres termes, c'est-à-dire de ne pas partir de la question « qu'en est-il des Roms ?». Finalement, pour ma part, j'ai beaucoup insisté sur le fait qu'il n'était pas nécessaire de savoir grand-chose sur les Roms pour comprendre comment on les traitait. Et que donc, selon la question qu'on se pose, c'est-à-dire « c'est quoi les Roms ?» ou bien « c'est quoi ce qu'on fait aux Roms ?», on n'a pas du tout la même réponse. Donc, je ne dis pas, bien entendu, qu'il ne soit pas très important de savoir de qui on parle, mais je crois qu'il est important aussi, d'abord, de s'intéresser au traitement qui est exercé contre ces personnes. Et c'est en ce sens-là que nous avons parlé de politique de la race. Alors, ça veut dire quoi? Premièrement, ça veut dire qu'on parle de politique. Or, tout ce qui se passe autour des populations roms vise à dépolitiser cette question, c'est-à-dire à la présenter comme simplement une question de gestion. On aurait à gérer des bidonvilles, que d'ailleurs dans l'espace public on n'appelle jamais des bidonvilles, et qu'on appelle plutôt des camps ou des campements, etc. Donc, ce que nous avons essayé de faire, c'était de dire que, en fait, là où le travail politique vise à dépolitiser en apparence ce qui se passe, notre travail à la fois militant et scientifique, c'est de repolitiser, c'est-à-dire de montrer de la politique à l'œuvre. Donc de montrer que, par exemple, ce qui nous est montré comme un problème de gestion, comme un problème local, comme quelque chose qui relèverait des riverains, eh bien c'est une production politique. Que, par exemple, la catégorie de riverains n'est pas une catégorie sociologique, que c'est une catégorie politique, qui d'ailleurs se comprend en vis-à-vis d'une autre catégorie politique qui n'est pas davantage sociologique, qui est la catégorie de bobos. Donc il y a d'un côté des bobos et de l'autre des riverains, et si vous défendez les Roms, on vous dit « vous êtes un bobo, vous devriez accueillir des Roms chez vous », et si vous êtes un riverain, eh bien par définition vous n'aimez pas les Roms parce que vous en avez à côté de chez vous. Bon. Ça, c'est ce qu'on nous dit, mais c'est faux empiriquement. C'est là que le travail des sciences sociales peut être utile, c'est qu'il contribue à montrer que chacun de ces deux termes ne décrit pas la réalité. Que, par exemple, les bobos, eh bien, parfois, ils habitent à côté des Roms. Que, deuxièmement, les riverains, ils habitent pas toujours à côté, bizarrement. Et que ça n'est pas une opposition de classe, puisque les riverains peuvent être des gens qui ont un patrimoine et qui sont mécontents de voir baisser la valeur de leur patrimoine avec la proximité de bidonville. Je pourrais continuer longuement, mais en tout cas, l'idée, c'est simplement qu'on ne doit pas considérer ces termes comme des termes sociologiques, mais que pour faire cette déconstruction, il faut faire un travail sociologique, et que l'enjeu, c'est de repolitiser, c'est-à-dire de montrer la production politique. politique, mais aussi politique de la race. Alors, je n'ignore pas que le terme fait sursauter, ça n'est pas tout à fait en ignorance de cause que je l'utilise, parce que il ne s'agit pas, bien entendu, de dire que les races existent, etc. Bon, j'espère que vous m'accorderez que ce n'est pas mon intention profonde, mais plutôt de montrer comment on naturalise des différences. Et la définition que nous avions proposée dans l'ouvrage écrit donc à quatre, avec Karine Fouteau, Henri Windels et Serge Guichard, c'est que la race, c'est ce qui nous permet, ce qui nous autorise, ce qui nous légitime pour traiter des êtres humains de manière inhumaine, sans pour autant nous-mêmes nous sentir inhumains. La dernière partie me paraît importante, c'est-à-dire que le fait, finalement, de le faire avec bonne conscience, c'est ce qui permet que le procès de Manuel Valls ne pose de problème à personne et qu'aucun média n'en parle. Parce que sinon, ça voudrait dire qu'il y a un problème qui est de l'ordre de la race. Mais bien sûr, dans le débat public, comme vous le savez, il y a des espèces de retours du refoulé qui font que c'est Manuel Valls lui-même qui a parlé d'apartheid, c'est-à-dire d'une politique de la race. Donc, parler de politique de la race, c'est essayer de comprendre ce qui est en train de se passer, et le terme de race, il a la violence de ce qui est en train de se passer. Et tous les euphémismes qui visent à dire « on ne peut pas appeler ça comme ça » sont essentiellement des efforts pour euphémiser la violence du traitement qui renvoie des gens à une nature différente. Nous avons essayé de le montrer, mais d'autres, enfin beaucoup le savent bien sûr, à travers par exemple le traitement des ordures, à travers le traitement des excréments, etc., à travers la présence des rats, à travers la question des maladies, etc., etc., c'est-à-dire le renvoi à une altérité radicale comme si ce n'était pas des êtres humains. Je prends encore 2 minutes pour conclure et pour ne pas prendre trop de temps. L'un des enjeux de ça, c'est pas simplement de produire de l'intelligibilité pour le plaisir. C'est pas simplement que c'est intéressant de comprendre. Même si, après tout, c'est déjà pas si mal de prendre un certain plaisir à interpréter le monde. Mais c'est aussi qu'aujourd'hui, le fait que le monde soit inintelligible, que ce qui se passe, par exemple, autour des populations roms, soit presque incompréhensible. Parce que si on essaie de comprendre pourquoi il y a un problème majeur autour d'une population qui représente entre 15 et 18 000 personnes en France, sur une population de 67 millions d'habitants, on se dit que, et c'est-à-dire beaucoup moins que les sans-papiers, sans parler de toute autre catégorie. Donc, si on se dit que vraiment il y a un problème majeur autour de ça, on ne comprend pas. Donc, notre travail, qui est un travail de sciences sociales, qui est d'essayer de rendre intelligible, de faire que ça ait du sens, qu'on comprenne qu'il y a une politique qui n'est pas absurde, même si elle est haïssable, qui a une rationalité propre, qui est de produire de la race, et de produire de la race dans un contexte néolibéral qui permet à chacun de se dire « au moins, moi je ne suis pas Rome », donc je ne sais pas si je vaux grand-chose, mais par rapport à eux, c'est déjà pas mal. Donc cette production de la non-valeur des Roms qui me permet par comparaison de me dire « j'ai une valeur », eh bien c'est une politique qui a un sens. Mais pourquoi c'est important politiquement de faire ça ? Eh bien parce que ce qui aujourd'hui me paraît menacer toute personne engagée, mais en particulier celle qui déploie toute leur énergie dans l'action militante. C'est ce que je propose d'appeler la dépression militante. Aujourd'hui, premièrement, et je crois que tous les gens qui... Enfin, vous, on le sait bien, voilà. Donc, qu'est-ce que c'est que cette dépression militante ? C'est pas simplement le fait de perdre toutes les batailles, ce qui déjà n'est pas très drôle, et ça n'aide pas. Parce que, bien sûr, on en gagne certaines. Mais après tout, on sait bien que si on défend des choses impopulaires, on n'est pas là pour gagner tous les jours. Donc c'est pas seulement ça la dépression. La dépression aussi, c'est que les choses n'aient pas de sens. Et y compris qu'elles soient devenues inintelligibles pour nous, mais aussi pour des gens dont on se disait qu'ils étaient nos amis et dont on finit par se rendre compte qu'ils disent les mêmes horreurs que les autres. Donc produire du sens, c'est un enjeu parce que la ruse ultime du néolibéralisme, c'est que si les choses n'ont pas de sens, si tout le monde est déprimé, eh bien on fait rien. C'est-à-dire que politiquement, ce qui nous guette, c'est le sentiment d'impuissance qui produit l'impuissance. Donc je crois que la première chose à faire, en tout cas quand on est dans une position telle que la mienne, c'est-à-dire qu'on est payé par l'État pour essayer de comprendre des choses sur ce qui se passe dans la société, c'est de produire de l'intelligibilité pour échapper à cette dépression qui nous guette. Et c'est pas simplement un travail intellectuel, mais pour ma part, c'est un travail auquel je participe avec d'autres, pas seulement dans mon universitaire, mais par exemple dans un collectif qui s'appelle Reprenons l'initiative contre les politiques de racialisation, qui en particulier, et j'ai eu l'occasion de le dire dans d'autres contextes à la Ligue des droits de l'homme, et je le redirai dans d'autres contextes à la Ligue des droits de l'homme, l'un des enjeux pour moi, aujourd'hui, c'est que l'antiracisme est menacé par cette racialisation dont nous parlons. C'est-à-dire que la racialisation, ce n'est pas simplement qu'il y a d'un côté les antiracistes et de l'autre qui racialisent, c'est qu'au sein même de l'antiracisme, le danger principal, c'est qu'il y a un antiracisme blanc face à un antiracisme non blanc, et je crois que, quels que soient les contextes, on le voit. On peut regarder autour de nous. Qu'est-ce qui nous menace? C'est bien ça, c'est que la racialisation de la société, elle ne laisse pas à l'écart l'antiracisme, mais que l'antiracisme lui-même soit traversé par ces questions. Donc l'enjeu de l'intelligibilité, c'est aussi de travailler avec des gens pour partager les mêmes vocabulaires et pour essayer de comprendre ce qui nous menace. Je vous remercie.
Alors, merci. Et donc, moi, juste quelques points pour introduire aussi après la table ronde et à la suite de... Il me semble donc notre sujet, sciences sociales et engagement, évidemment, ouvre sur cette question permanente dans tous vos travaux de redéfinir, et on l'a vu tout à l'heure, les outils, les mots, les cortèges sémantiques qui abîment ce qu'on veut dire, les préjugés, les stéréotypes, etc. Et ça, c'est le minimum, et ça a à faire avec analyse, description, terrain, déontologie du sérieux, de l'objectivité, etc. Ça continue. Mais ici, on est aussi dans quelque chose, donc la section de la Ligue des droits de l'homme de l'École des hautes études, c'est-à-dire qu'on a un versant tourné vers le présent, parce que, eh bien voilà, c'est une institution faite pour contredire des choses qui sont en train de se passer, le gérondisme. C'est-à-dire, qu'est-ce qui, dans notre contemporanéité, est en train de se passer d'une façon particulière, je pense à l'Europe, depuis, mettons, 3 ans, mais même depuis 10 ans, parce qu'une association belge avait déjà noté tous les noms des morts dans la Méditerranée en l'an 2000. C'est un petit livre qui était paru à l'époque. Ce qui se passe, c'est des morts de façon massive dans la Méditerranée. Il y en a ailleurs des morts, la question n'est pas... Mais là, pour nous, Ligue des droits de l'homme, ici, c'est une chose absolument, effrayante. Voilà, c'est pas scientifique de dire effrayant, mais je le dis parce que c'est très particulier et c'est très contemporain. Alors, qui les tue? Si on ne répond pas à cette question, sérieusement, on permet que continue, parmi toutes les conditions de possibilité de ces morts, on permet que continue le fait que ça continue, puisqu'on ne désigne jamais quelque chose, il n'y a pas de nom juridique, il n'y a pas de nom pour dire, mais d'où ça, comment on peut dessiner le pôle qui est à l'œuvre dans le fait qu'il y a des cadavres. Alors on a eu une discussion, nous, certains ont dit on va reprendre l'idée de crime contre l'humanité, d'autres ont dit non, le crime contre l'humanité suppose non seulement planification de gestion grise d'une idéologie elle-même meurtrière qu'un exécutif a adoptée et met toutes les forces productrices d'un pays dans un travail de destruction d'une large part fraction de la population, ça c'est le génocide, et les crimes contre l'humanité sont des faits liés à cet ensemble. Donc là, on n'a pas d'une instance politique dans l'exécutif qui dise, eh bien voilà, les gens qui vont traverser la Méditerranée, dans ce sens-là, les autres sur les gros bateaux, ils n'auront que des accidents grotesques, mais ceux-là, dans ce sens-là, ils vont échouer sur les plages. Donc ça, on ne l'a pas, mais on a des morts, et on en a beaucoup, et c'est quand même... Ça croît. Alors, de la tempête aux passeurs, en passant par les frontières, la gestion grise de l'Europe, jusqu'à l'ultralibéralisme et les rapports de force dans la géopolitique, on a un éventail. Mais il faut que les chercheurs, anthropologues, les sociologues du judiciaire, les historiens, travaillent à nous donner des outils qui nous permettent... Alors, je sais qu'en ce moment, on parle de crimes systémiques, qui nous permettent de monter au créneau en tant que Ligue des droits de l'homme, avec ces outils sérieux, pour dire les instances qui sont à l'œuvre dans la production de ces cadavres ne vont pas être dans l'impunité culturelle, je ne dis pas les procès, tout ça, Mais ils ne vont pas pouvoir, et ça ne va pas durer comme ça éternellement. Ça ne peut pas durer éternellement. Alors là, je trouve qu'il y a un champ qui s'ouvre. Et vous voyez, le contemporain déplace un peu. Tout le monde travaille et essaye de débusquer, etc. Mais là, le contemporain oblige, à mon avis, à... C'est assez urgent, en réalité. Parce qu'on voudrait participer au faisceau de cause qui va freiner ça. C'est le seul intérêt du boulot. Alors, ça, c'est un point. Quand c'est en train de se faire, vous voyez, sinon, on travaille, comme tu as dit, évidemment. Donc, premier truc, répondre à cette question d'une façon ou d'une autre, travail pluridisciplinaire. Deuxième grand champ, à mon avis. Alors, les Roms. Moi aussi, en tant que participant à l'association Les Morts de la Rue, et non pas dans la rue, c'est-à-dire morts des processus qui font que certaines personnes qui vivent dans la rue vont mourir de ces conditions, même s'ils meurent à l'hôpital, ce problème n'est pas là. Donc les morts de la rue, ceux qui n'ont pas de domicile. Il se trouve que depuis une dizaine d'années, et là je me réfère à Pedro Meca qui n'est plus là, mais c'est lui qui l'avait noté, il disait, enfin c'est une association qui n'est pas très vieille, mais enfin les gens qui travaillent dans la rue étaient quand même attentifs, dans une ville comme Paris, vous n'aviez pas d'enfants morts dans la rue. Sauf depuis 10 ans. Qui ? Les enfants roms. Il y a les photos qui manquent. Il y a les photos qui manquent. Une photo, nous avons vu la vague d'émotions collectives nous passer, et j'ai trouvé ça magnifique, et Angela Merkel, etc., etc., refluer et ne pas toucher les photos qui manquent. Alors, c'est un vieux thème, les voix qu'on n'entend pas, les photos qui manquent, mais il faut peut-être la travailler de façon différente. La question des photos qui manquent. Il faut peut-être, parce que si l'enfant de la plage, le tout petit corps d'enfant. Si on ajoutait l'adjectif rom, un enfant rom est mort sur une plage. Bon, je ne sais pas, hein, voilà. Alors, si, je ne sais pas. Mais je pense que la question de l'émotion collective que je respecte et que j'admire et je ne vais pas du tout critiquer et dont on a absolument besoin, soit il y a une voix à la Victor Hugo, un texte dont chaque phrase prend par la peau du dos le lecteur et le balance par la fenêtre de tout ce qu'il n'a pas compris. Si on n'a pas ça, et on n'a pas, eh bien, il nous faut des analyses qui nous expliquent quels sont les mécanismes qui font que l'émotion collective, dans sa puissance et dans sa beauté, cette grande vague, a des effets toxiques de fabrication d'invisibilité sur des points précis, sans la mettre en cause elle, mais dont on voudrait quand même débusquer comment ça fonctionne. Parce que c'est vous voyez, les petits-enfants qui meurent, parce que la condition sanitaire des Roms actuellement dans Paris, elle est absolument tragique. Elle est tragique. Alors, vous voyez, cette grande vague qui nous submerge. Alors, qu'est-ce qu'on fait, LDH ? Et on a absolument besoin des sciences sociales. Parce qu'on peut pas dire, on peut pas arriver tel des Mégères les poings sur les hanches, et alors vous ne parlez pas des Roms, mais les enfants Roms aussi, on peut pas avoir cette posture. Et c'est rentrer dans la concurrence des victimes, qui est une chose infâme, qu'il faut absolument refuser. Alors, il faut qu'on ait des travaux sur les mécanismes de fabrication, d'inondation et d'explosion des émotions collectives que l'on souhaite sans cesse, on dit si les gens prenaient conscience, les médias, etc., que l'on appelle tout le temps dans nos travaux, oh, il faut passer à la télé, il faut faire cette pétition, il faut signer, et quand elle arrive de façon inouïe, il faut voir ce qu'on a. Nous, on était quai d'Austerlitz, on a vu la vague passer, nous avons refusé, on était tout mouillés. C'était extraordinaire de vivre ça. Et on vit ça, et voilà, on en voit les aspects secondaires, non prévus, catastrophiques. Il faut qu'on arrive à les prendre en compte dans nos analyses, et ça pose peut-être aussi des questions épistémologiques. Troisième point, si jamais, ce qui n'est pas du tout sûr, ce qui est, on a, le fait que des populations qui normalement ont le droit de circuler librement, arrive avec tous les mécanismes qu'on a vus, toutes ces frontières, tous ces voyages, de plus en plus dans les grandes capitales européennes. Pourquoi l'Europe donc, et les grandes capitales, parce que c'est là qu'ils vont, avec plein de mécanismes qui sont étudiés. Eh bien, s'il y en a de plus en plus, moi j'ai été voir à Vintimille, et nous avons, l'expérience du quai d'Austerlitz, qu'on ne va pas raconter, je ne voudrais quand même pas être trop long non plus, et on a aussi la place Maximilien à Bruxelles, qui maintenant, les derniers étages, je ne sais pas, mais moi j'ai vu 1000 personnes là, érythrées sous le temps, etc. Et je trouve que quand arrivent énormément de personnes qui n'ont rien, qui n'ont pas les conditions qu'ont les camps de réfugiés en temps de guerre au Soudan, hein, puisqu'il n'y a pas cette logistique mise en place par l'ONU, etc., tellement critiquée, mais qui quand même quand même, la base, c'est quand même l'eau, aller aux chiottes, être prof et toutes ces choses-là, et prendre un café. Bon, enfin, passons. Et donc, ça, il ne faut pas du tout le mépriser. Donc, si vous voulez, on n'a pas ça quand les personnes arrivent dans nos villes, dans toutes ces poubelles qu'on jette, des supermarchés, etc. On ne l'a pas. On a les bénévoles. Et par exemple, la place Maximilien, la ville jetait les poubelles, mais c'est la vie associative de Bruxelles qui est extraordinairement riche et inventive, avec peu de moyens, qui a organisé la vie de 1000 personnes sur une place, qui ne se parlent pas, qui ne parlent pas la langue. Donc les profs, les consultations médicales, les toilettes, etc., les jardins potagers, parce que toutes les associations belges qui font de l'écologie en avant, on ne va pas donner aux réfugiés les vieux biscuits, de l'humanitaire, mais les bons légumes bio, tout ça. Il faut voir ce que c'était que ce travail. Nous, au quai d'Austerlitz, et là je salue les groupes qui sont venus sur le quai d'Austerlitz, qui sont venus dès le premier soir faire des cours, être présents, le collectif de soutien, dans ces conditions, 300 personnes. Bon. On a su ce que c'était que la désorganisation. On a su ce que c'était. Mais au bout de 3 mois, on commençait à faire société. On avait obtenu que nos résidents, donc Érythrée, Soudan, etc., aillent visiter l'Institut du monde arabe. Moi, je me disais, non seulement ils iront aux toilettes en passant, mais ils verront Paris d'en haut. Une fois, voilà. On a accompagné. Pourquoi pas? On a fait l'opération dictionnaire, on a fait l'opération café. Et il faut voir, le collectif de soutien qui a assuré avant le ramadan 200 assiettes tous les soirs avec des vieilles tables de camping, des vieilles estafettes grâce au local du PC du 13e. Mais il faut voir ce que c'était. C'était en même temps, on était dépassés. Alors, est-ce qu'on va dire, est-ce qu'on va ululer, est-ce qu'on va tout le temps dire un logement, un boulot, un logement? C'est très difficile déjà pour les jeunes, la jeune génération parisienne, le logement, le boulot, pardon. Mais comment on va faire? Ce sont des gens qui passent. Il faut aménager les villes différemment. Il faut fonctionner et il faut penser le lien entre toutes ces possibilités de bénévolat qui viennent de la société civile de façon beaucoup plus intense que ce qu'on croit. On a vu arriver des gens qui amenaient des choses parce qu'ils en avaient entendu parler, qui n'étaient pas du tout politisés ni rien. Et quai d'Austerlitz, on ne faisait pas village parce qu'il n'y avait pas de riverains, on n'avait que des institutions et du béton tagué. Et des bois de nuit. Mais par contre, je pense que bien sûr, j'ai entendu la critique, on ne peut pas habiter l'inhabitable, on ne peut pas remplacer l'État, les services publics, etc. Habiter l'inhabitable, c'est dans les camps de réfugiés, comme l'a bien montré Agier, pour la vie entière. Donc ça n'aurait pas dû durer une minute. Ça dure 4 générations, en Afghanistan, en Palestine. Et ça s'accroît. Et c'est des villes énormes. Alors, si on continue, on aura des camps de rétention avec des barbelés, etc., etc., des conditions atroces, et on aura des gens qui vont mourir dans la rue. Et on passera comme ça entre les macadés et sur les plages, etc. Oh, bon. Et là, quand au bout du 30e enfant mort, même très mignon, la question de l'émotion collective, ça va s'émousser. Voilà. Alors, il faut penser la question de lier, habiter la ville, tous ces travaux sur l'espace, à Bruxelles et ici en France. La question de ce fait des échanges non monétaire dans les quartiers, ça a l'air idiot ce que je dis, mais le fait que j'ai pas les bains-douches, tout ça, le fait que quelqu'un prend 3 cafés, il en prend un, il en laisse 2 pour quelqu'un qui passe, ne pas mettre derrière le moindre mur les populations qui vont arriver, qui repartiront. C'est fini.
Bon, Nicole.
Alors, oui, ma section m'a proposé d'intervenir il y a 2-3 semaines parce que je pense que j'avais dit mon désir que soit associé au débat sur l'islamophobie celui sur l'antisémitisme. C'est d'ailleurs ce qui avait été initialement prévu. Et donc, c'est sur cette question que je vais centrer mon intervention. Bien entendu, nous savons que c'est un débat très chaud, difficile, mais puisqu'on a dit qu'il fallait analyser ce qui est en train de se passer, nous ne pouvons pas négliger ce qui s'est passé dans les quelques jours, en tout cas de janvier, et puisqu'il y a avant. C'est-à-dire qu'on ne peut pas négliger qu'il y a eu l'attentat contre Charlie, qu'il y a eu l'hyper cachère, qu'avant il y a eu l'affaire Mira, qu'avant il y a eu l'affaire Halimi, etc., etc. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas mettre de côté une partie de la réalité. Mais nous ne devons pas la situer dans ce qui serait ce qui est le débat médiatique, ce qui est Zemmour contre Soral. Nous devons penser à sortir de cela. Et c'est de ce point de vue que l'Université d'automne, qui n'a pas été évoquée, mais qui est prévue par la Ligue des droits de l'homme pour fin novembre, et auquel je crois que ça intervient aussi, est importante. Le titre en lui-même parle « Penser le racisme » avec un sous-titre « Pour une contre-offensive ». Alors, j'ai regardé le programme, et puis figurez-vous que j'étais un petit peu... Alors d'abord, pleine d'allégresse, hein, et puis j'étais un petit peu déçue, figurez-vous, parce que j'ai trouvé, moi, que la place de l'islamophobie ou du racisme anti-arabe, parce que sur les termes, je pense qu'on va poursuivre la discussion, était assez minime. Alors vous savez que c'est un appel qui est appelé par la LDH, la LICRA, SOS Racisme et le BRAP. Donc une partie, on va dire, des associations de gauche, pas toutes. Donc nous nous situons déjà, sans le dire, hein, je pense, dans un débat qui concerne la gauche ou l'ultra-gauche aussi. Bon. C'est pourquoi je crois justement que notre travail, puisque en lisant la recherche, hein, est tout à fait important sur ces questions. Alors moi, je ne suis ni sociologue, ni anthropologue, ni politologue, ni juriste, ni spécialiste de droit international. Je suis historienne sur la longue durée, sur la Méditerranée, et en particulier sur les rapports entre juifs et arabes sur un millénaire. Bon, alors je suis très contente d'être dans une salle de Maurice Lemar. Bon, je pense que comme historien, nous avons des choses à dire sur une Europe qui n'est pas continentale, mais qui s'est trouvé historiquement à travers Rome et Grèce, centré sur les deux rives de la Méditerranée. On ne doit pas l'oublier. On ne doit pas oublier non plus l'apport de la Mésopotamie à la culture, y compris celle qu'on nomme judéo-chrétienne. Bon. Alors, ça c'est juste un petit peu pour une assise et pour me présenter. Mais revenons au fond. Parce que c'est justement sur le fond, sur ce qui fait sens, qu'il faut réfléchir. Alors, bien sûr, moi, je ne voulais pas... Faut que je regarde l'heure. J'aille très vite. Donc, je voulais intervenir sur deux points, le fond, et aussi la bataille que nous avons menée dans mon université, que je présente tout de suite. Nous nous sommes battus pendant 20 ans, mais en particulier depuis une quinzaine d'années, avec les collègues d'Arabes pour maintenir les études sémitiques. C'est-à-dire que moi, je m'occupe des études juives. Et nous nous sommes battus au nom de quoi ? Très clairement, au nom d'une conception laïque, même si j'étais avec des collègues pratiquants, l'une maronite chrétienne, l'un musulman pratiquant, vivant dans les banlieues nord d'Amiens, là où il y a eu d'ailleurs des émeutes. Hein? Mais nous pensons que l'université est un cadre qui peut permettre de former des générations, à, y compris à la connaissance de l'islam ou du judaïsme. Moi j'ai eu plusieurs centaines, peut-être un millier d'étudiants, hein? Bon. Et nous sommes heurtés à quoi ? Je raconte d'abord ça, après je reviendrai si je peux un peu aux questions de fond. Nous sommes heurtés, moi d'abord, à des propos négationnistes. J'ai reçu une petite plaquette, droit de réponse, Roger Garaudy, vous en rappelez peut-être, 96. Postface, Abbé Pierre. Sur quoi ? L'assimilation juif, sioniste et antisémitisme. Bon. À cette petite plaquette a succédé une première lettre signée, je l'ai, nous les révisionnistes. Alors j'ai contacté l'avocat de Vidanaquet qui m'a dit que si c'était une lettre personnelle, je ne pouvais pas attaquer. Bon. Mais eux ont continué à attaquer. Ils ont supprimé, ils ont fait supprimer par le président qui n'était pas du tout un antisémite. Comme ça, ils venaient du Parti communiste ou de la mouvance. Mais ils ont fait supprimer la licence d'hébreu, notre enseignement. Or, et moi j'étais interdit d'enseigner, il y a eu un procès qui a commencé pour diffamation, etc., etc. Hein, pendant 6 mois. Bon. Alors on a donc une conjonction entre une attaque disciplinaire, contre une filière, hein, et un problème politique. Mais ce problème politique, on nous disait, ne parlez pas de l'antisémitisme. Il y a 20 ans. Ne parlez pas, ça n'existe pas. Pourtant, l'extrême droite, ça existe. Cet homme n'était pas un arabe, ce n'est pas un musulman, c'était un ancien franquiste. Voilà. Alors, quel rapport avec mes collègues? Et quel rapport avec les questions de sens? Ben, quand il y a des manifestations contre l'occupation en Palestine, en général, j'y vais. Même si je risque d'entendre mort et juif, et ça m'est arrivé. Donc, une fois, j'ai été contre l'intervention là, au Liban. C'était un petit peu après la mort de Pierre Vidal-Naquet, j'ai écrit un papier, en fait, à sa mémoire, et où je reprenais ce que j'avais entendu. Et qu'est-ce que j'avais entendu? J'avais entendu de la part de la gauche, il y avait même la LDH, hein, mais c'est pas eux qui disaient ça et qui avaient écrit ça, que le Hezbollah, c'était une organisation de résistance. Alors, ça pose une question fondamentale. Est-ce que les organisations musulmanes islamistes, militaro-religieuses, qui pullulent maintenant, qui se développent partout, sont des organisations qu'on peut qualifier de résistance, ou est-ce qu'elles sont fascistes ou fascisantes? Et ça, ça m'a permis de discuter avec ma collègue du Liban. Et quand on a attaqué l'hébreu et l'arabe ensemble, au conseil de gestion, ils ont tous supprimé, elle avait une centaine d'étudiants, et nous, on en avait pas mal. En nous disant qu'on ne s'occupait que de l'Europe, et qu'il fallait supprimer l'arabe en même temps que l'hébreu, parce qu'autrement on dirait qu'ils étaient antisémites, au conseil de gestion. Eh bien, la collègue a pris fait et cause avec moi, on s'est battu pour la laïcité, on l'a mis une première fois. Et puis ça a recommencé, et on a lancé une pétition, 500 signatures, il y a des collègues de la section qui l'ont signée, et ben, on ne va pas finir sur une défaite. Parce que récemment, a été refusée ma propre prolongation d'activité. Au nom de quoi? Le champ d'activité de Nicolas Bravanel ne correspond pas aux objectifs textuellement, hein, pédagogiques de l'université. Très bien. On a mené la bataille, on a rendu ça public. Eh bien, les unités de valeur de civilisation hébraïque sont maintenues, au moins sur le papier. Maintenant, il faut l'organiser. Alors, je n'ai pas traité la question de fond, sinon là, le rapport à l'islamophobie. Parce qu'il faut réfléchir à ce qui se passe au Moyen-Orient. Et au pourquoi de la naissance de ces groupes militaro-religieux. Au rapport entre, excusez-moi, je finis juste là-dessus, oui. Ce qui s'est passé quand le fils s'est formé, avant que le fils se forme en Algérie, j'en discutais avec quelques... Bon. Les révoltes contre les hausses de prix. Et ça, ça tombe ensuite dans l'escarcelle des militaro-religieux. Révoltes provoquées par le FMI. Et donc, si on a cette vision d'ensemble, Europe et puis Afrique du Nord, on arrive à discuter avec les gens sur le fond et on arrive à combattre les positions identitaires, les clans qui sont formés. Pas auprès de tous, mais auprès de certains et auprès des jeunes. Et ça, c'est très précieux. Merci.
Merci, Nicole. Ben maintenant, voilà, discussion. Ah oui, non, ah oui, oh, pardon.
Non, mais on a à peine le temps pour la discussion.
Oui, parce que...
Laissons d'abord parler.
Oui, oui, tout à fait.
Bien sûr. Qui doit parler?
À vous d'abord.
Qui doit parler?
Alors, j'ai pas compris. Qui veut parler?
Non,
faisons d'abord parler.
On a peu de temps.
La salle.
Et éventuellement, à la fin, on dira deux mots.
Voilà. Moi, je propose qu'on discute. On a encore un bon quart d'heure. Merci, et puis après il y aura une conclusion.
À propos des Roms, justement, je partage bien sûr tout ce qu'a dit Eric Passin, qui nous a aidé d'ailleurs parfois très efficacement. Je voulais dire qu'on n'est pas dans la dépression militante. Moi, je fais partie de beaucoup de gens qui sont au quotidien aux côtés de Roms, qui commencent à connaître leurs droits. D'ailleurs, il faut qu'on leur apprenne leurs droits de citoyens, de concitoyens européens, qu'on leur refuse, mais que parfois on leur applique quand ils font des recours. Et moi, j'ai eu des victoires, etc. Ceci dit, quand par exemple, la semaine dernière, j'accompagne une des familles de la République scolarisant ses enfants, le papa leur montre les cahiers scolaires le soir, ils sont à la rue, ils dorment dehors, que je les amène à Pôle emploi à Paris 10e pour apprendre que l'accompagnement global sur des fonds européens que j'ai réussi à obtenir pour des familles à Champigny leur est refusé parce qu'ils sont à la rue. C'est-à-dire qu'ils sont domiciliés dans une association, mais comme ils ne sont pas hébergés, et le 115 est saturé, il était déjà en région parisienne et dans le 93, maintenant c'est même plus la peine d'en parler forcément avec les migrants, eh bien, le fait qu'ils ne soient pas hébergés dans un hôtel social pour une nuit ou deux ou 15 jours, fait qu'ils n'ont pas droit à l'accompagnement social sous les fonds européens. Donc moi, je pense qu'on est plusieurs ici et ailleurs. On va essayer de se réunir pour informer l'Europe de ce déni de droit, essayer de voir toutes les portes auxquelles on peut frapper, en commençant par la région de France, mais on les fera toutes. Et je veux dire, on n'est pas désespérés. Simplement, les Roms commencent à connaître leurs droits, et quand ils les connaissent, ils deviennent des citoyens comme les autres. Ils sont, depuis qu'ils ont le droit de s'inscrire à Pôle emploi début janvier 2014, tous ceux que je connais, une cinquantaine, que j'ai aidé, une centaine, se sont inscrits. Ils n'ont pas trouvé de travail, parce qu'ils
ont changé.
7 ans, ils étaient exclus du marché du travail, bien qu'européen. C'était un apartheid, effectivement. Mais ils vont en trouver, parce que peu à peu, bien sûr, ils apprennent le français, maintenant qu'ils ne sont plus condamnés à rester entre eux, à faire du ramassage de ferraille ou de vêtements. Et donc, ils vont devenir des citoyens comme les autres si on arrête, bien sûr, de les traiter de façon inhumaine, puisqu'on fait exprès de laisser s'accumuler les ordures, les rats, etc. Et bien sûr, les maires ont des politiques épouvantables à cet égard aussi. Mais je veux dire qu'on n'est pas dans la désespérance militante. On n'a pas beaucoup de victoires, mais on en a, et on en aura plus en plus, parce qu'on va leur apprendre leurs droits, et ils se les apprendront entre eux. Et donc, voilà, c'est tout ce que je voulais dire.
Bravo.
Oui.
Je voulais revenir sur la question posée au début sur le lien entre l'engagement et la recherche. Ça me semble une question très importante. En tant que militant, on a besoin des chercheurs. On a besoin du travail des chercheurs pour éclairer notre travail. Et je ne connais pas très bien le fonctionnement de l'université. Je voulais savoir s'il y a au sein de l'université un dispositif de protection des chercheurs qui travailleraient sur des sujets qui n'ont pas de soutien, quoi, des sujets...
La solidarité des collègues.
Non, il y a la solidarité, mais disons que si vraiment, par exemple, le CNRS n'a pas donné de crédit pour aller dans un pays en guerre, où il y a des dangers, il y a des freins sans doute, et pour le cœur, c'est le doctorant, et si le doctorant trouve un directeur de recherche, il y va. Il y a des zones de liberté, il n'y a pas pour le moment de choses. Disons que l'anthropologie, la sociologie, l'histoire a réussi depuis très longtemps à s'installer dans le primaire, le secondaire, dans le cursus scolaire des enfants. Mais l'anthropologie, les sciences sociales, non. Ça veut dire que les historiens auront toujours du boulot, etc., des chercheurs, sciences vivantes, etc. Tandis que si on mettait l'anthropologie, l'ethnologie, les sciences sociales dans le primaire et le secondaire, comme les historiens de Petite Libre, comme les historiens, Kinoa, je pense que non seulement on déconstruirait les identités collectives, on irait dans le bon sens, et ça passionne d'ailleurs, toutes les expériences montrent, ça passionne les élèves de faire de l'ethnologie, de l'anthropologie, non seulement on déconstruirait, mais en plus on aurait des doctorants qui travailleraient dans tous les domaines. Donc soutenez aussi les sciences sociales pour qu'elles soient.
Je crois que ce que vient de dire Véronique est très important. Nous croyons un peu aux études, un peu le centre du monde, le centre de la France, mais je pense qu'on est au contraire une institution très minoritaire. Ce qui reprend, regardez, même le président de la République aujourd'hui fait allusion au roman national, c'est une conception au contraire assez régressive et identitaire du rapport au passé, du rapport à la société. Nous avons, y compris les historiens ici, et je crois qu'on l'a montré dans les débats, qui ont eu ici, une attitude complètement différente, une attitude au contraire critique. Mais elle n'est pas... On a un peu l'impression que ce qui se fait à l'école, ça fait partout, ce qui est entièrement faux. Il y a au contraire un reflux très fort de ce type de problématique. Et on l'a vu, y compris pour les programmes d'histoire, parce qu'en fait, ils avaient été réformés et, sous Sarkozy, reconnaissons-le, et ouverts à l'étude du monde. Et c'est y compris des chers collègues récemment qui ont rappelé qu'on ne faisait pas une place suffisante à l'histoire nationale.
Oui, on pourrait peut-être ajouter que quant à la liberté de la recherche critique
en sciences humaines et en sciences humaines et sociales en général, il y a quand même une grande menace qui pèse à travers le système des appels à projets par le biais de l'ANR et de ce qu'on appelle la culture de l'évaluation, parce que cela signifie que si vous voulez obtenir les fonds nécessaires à la réalisation du projet que vous élaborez, que vous présentez, vous devez l'inscrire dans certaines normes, et s'il est trop critique, il a toutes les chances d'être écarté et vous n'obtiendrez pas les fonds pour le réaliser.
Oui, je voulais ajouter que on est dans la fable du loup et du chien, en réalité. Quand, à l'époque où, comme anthropologue, on pouvait travailler avec son bloc-notes et son crayon, on avait une liberté parfaite, en tout cas du point de vue des institutions françaises. À partir du moment où vous demandez des crédits, nécessairement, vous vous placez sous la dépendance de celui qui accorde les crédits et dont les critères peuvent être variés et parfois politiques.
Il y a une question là, oui.
C'est pas une question, c'est juste un peu rectificatif. Oui. On enseigne les sciences sociales en lycée, mais l'agrégation de sciences sociales, les sciences économiques et sociales sont une discipline.
Oui. Section
dans le lycée.
Oui, mais pas du tout à égalité avec l'histoire, et l'anthropologie n'a pas du tout sa place.
L'histoire a souffert de ce qu'on lui a enlevé avec la création des sciences économiques sociales.
À la peau.
Oui, il y a eu des batailles là-dessus, mais néanmoins, ça existe quand même.
On fait de l'histoire dès le primaire. Il faut faire de l'anthropologie dès le primaire à égalité.
Gilles.
Oui, j'ai envie d'agir à l'intervention sur l'antisémitisme, parce que c'est une question importante, et la nécessité de réagir à la fois à l'islamophobie et à l'antisémitisme est vraiment une question compliquée et délicate, et qui fait l'objet de multiples débats. Alors, la brochure, par exemple, que vous nous avez montrée, enfin évoquée, indique que l'antisémitisme persiste, y compris à Garaudy, à l'Abbé Pierre, enfin, dans ses formes à peine renouvelé par rapport à celle qu'il pouvait avoir auparavant, et on a cru peut-être de manière un peu trop en s'illusionnant que ça avait, ça s'estompait dans l'après-guerre. Donc il persiste. Alors il y a un grand débat quand même autour de nouveau ou pas, ou ancien. On connaît les travaux de Taguieff. On a entendu peut-être Georges Bensoussan, pas plus tard que samedi dernier, à l'émission réplique de Peter Prout, dire que c'était les Arabes, l'antisémitisme maintenant, c'est parce qu'il y a trop d'Arabes en France, en gros, et qu'il nous amène de l'antisémitisme. Bon, ce qui a fait bondir Patrick Veil et réagir pas mal d'autres gens. Il y a un débat là-dessus. Alors, il faut vraiment que l'on soit vigilant. Alors c'est pour ça, par exemple, que la FDH a fait cette procédure judiciaire contre des militants de BDS héros là, qui avaient mis sur leur page Facebook des documents à contenu manifestement antisémite. Et puis, donc pour poser le problème, et c'est pour ça aussi qu'on voudrait aussi évacuer l'accusation qui est portée contre les gens de culture musulmane, tout en posant la question. Alors, d'où l'idée qu'on a eue à quelques-uns, en cas de collectif Trop c'est trop, donc, qui défend les droits des Palestiniens et sur des bases politiques, juridiques, fondamentales, de poser vis-à-vis des gens qui participent à ce mouvement de soutien aux droits des Palestiniens et puis au mouvement d'immigration, le problème de ce qui c'est la perception des juifs, la confusion entre juifs et israéliens, etc. Donc on voudrait faire, on va essayer de travailler, faire une journée d'études, quelque chose comme ça, pour, sur ce point précis, compléter l'université d'automne de la FDH.
Très bien.
Voilà. Merci.